Alleluia. 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 Alleluia.
Son verbe de vérité, alléluia, pour faire de nous comme les prémices de ses créatures.
Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une nouvelle parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qui la semait dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Et Jésus leur dit une autre parabole encore. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole. Et il accomplissait ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, et ensuite je publierai ce qui a été caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur, que ton évangile, Seigneur, répande son parfum sans nuire, son onction vivifiante, ta divine bénédiction, toute chair assoiffée de sainteté toute pure, qu'elle pénètre en toute chair que tu as choisie. Qu'ils puissent voir dès cette terre, devant leurs yeux s'ouvrir les portes de la Jérusalem d'en haut, libre de toute entrave, lavé de toute faute. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi. Alléluia. Louange à toi. Alléluia. Louange à toi. Alléluia, louange à toi, alléluia.
Alléluia, louange à toi, Alléluia.
Est-ce que vous croyez qu'on peut s'arrêter un petit moment? On est fatigué. Dormir un peu. Ah, oui. Si vous le permettez, demain c'est votre tour. Demain, c'est votre tour. Hein? Eh ben, je réserve une journée à chacun. Mais si ça.
Demain sera un autre jour.
Si ça vous va, je suis disponible demain. Mardi. Bien. Alors, même si on est. Justement, c'est bien. Si on était en pleine forme, en pleine possession de nos moyens, on ne serait pas à la hauteur parce qu'il faut être très ratatiné pour être à la hauteur des intentions que le Seigneur met entre nos mains. Il faut se rappeler hein, l'histoire des orthodoxes. Les deux mains, hein, une main à la gauche et à la droite. On est inscrit dans le sanctuaire, assimilé à Dieu le Père. Et nos deux mains se déploient. Révélé, les deux mains, c'est la mission invisible de la deuxième personne de la très sainte Trinité et la mission invisible de la troisième personne de la très sainte Trinité. C'est ça, nos deux mains. C'est là où nous sommes attendus. Et donc, si nos deux mains humaines sont trop valides, on croit que c'est avec nos mains. Hein. On est capable de faire quelque chose de bien sur la terre. Alors, du coup, on dit, on met tout ça au service de l'Église, du pape, tout ça, et puis on croit que c'est ça. Mais profondément, non, il faut une très grande pauvreté quand il ne reste plus rien. Il nous reste nos deux mains, enfin les deux mains de notre. Voilà, le Père nous attend pour qu'il y ait cette mission invisible. C'est ça les orthodoxes, la mission invisible. Le Père, Dieu le Père, première personne de la très sainte Trinité, ben, est le principe du Fils et puis le principe du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils disent les catholiques, le Saint-Esprit vient de l'unité du Père et du Fils, c'est pas exact. Les missions invisibles, elles viennent toutes les deux du Père. Et le Père n'est pas sans foyer. C'est beau, d'ailleurs, de voir ce souci des orthodoxes. De quelque chose de beaucoup plus exact. De beaucoup plus juste. La justice, c'est vrai. La tzedaka. En nous, c'est quand on est tellement englouti dans la source, dans le principe de tout, à l'intérieur de la très sainte Trinité, pour que la péricorée, c'est-à-dire le mouvement d'amour de la très sainte Trinité en nous, commence à réaliser la sainteté de Dieu et sa glorification. Il faut qu'il y ait l'émission invisible des personnes divines dans notre âme. Et c'est la très sainte Trinité, c'est l'essentiel de la foi, de l'amour orthodoxe.
pour ne pas dire exclusivement. Là, chez nous, chez les Latins, on est beaucoup plus confiant dans notre puissance. C'est un petit peu l'héritage des empereurs romains. C'est vrai, nous on a hérité quand même de cette espèce d'atavisme culturel de Néron, Vespasien. On n'est pas purifié de ça. Les orthodoxes, on croit toujours qu'on peut faire quelque chose. Tant qu'on ne maîtrise pas bien le terrain, on garde le contrôle. On garde le contrôle, c'est ça. Et quand on arrive à une grâce un peu orthodoxe, mystique, divine, et qu'on sent qu'on perd le contrôle, on est déstabilisé. C'est sûr. Il n'y a rien d'étonnant à ça. Mais plus on se rapproche de l'avertissement, plus on se rapproche des orthodoxes. Hein. Si on n'est pas complètement converti à l'orthodoxie, je crois qu'on aura un problème. Oui. Et l'esprit de contrôle, c'est terrible. On risque de se faire piquer par l'esprit de contrôle. C'est comme un dard, oui, ça fait pas. Un scorpion, ça vous pique par derrière. Vous avancez, paf, c'est par derrière, vous êtes attrapé. C'est le scorpion. Bouf. La droite et la gauche, les missions invisibles. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction avec ce que. Bien sûr qu'il n'y a pas de contradiction. Je sais bien qu'il n'y a pas de contradiction. N'empêche que. Je crois, enfin, il me semble, que de ce point de vue de là, du dogme, c'est vrai, hein, filioque. Le filioque, vous savez ce que c'est que le filioque, le père. C'est ce qui fait qu'on est. Les orthodoxes disent non, je n'ai pas de catholique, on n'en veut pas. Parce que les catholiques disent, je crois au Saint-Esprit, qui est Seigneur, qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Filioque et du Fils. Filioque et du Fils. Ils disent non, c'est pas vrai. Pourquoi ils disent dans leur credo quelque chose qui est faux? Jésus le dit, je vous enverrai, quand je serai dans le Père vous enverra l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est envoyé par le Père. Quand je serai remonté vers le Père, voilà, par moi, vous recevrez l'Esprit Saint, par moi. Mais ce n'est pas l'unité spirituelle, ce n'est pas l'unité du Père et du Fils qui envoie. C'est vrai, on ne voit pas ça finalement dans l'évangile de Saint Jean, hein, on ne voit pas ça. C'est le Père envoie son Fils, hein, et le Père envoie, quand l'Esprit Saint est revenu à la maison, ben, du coup, ben, tiens, les pauvres, ils n'ont plus de paraclet, on envoie un autre paraclet. C'est l'Esprit Saint. c'est assez juste. Hein. Quand je dis c'est assez juste, c'est tout à fait vrai. À même, et ça veut dire beaucoup de choses même. Ça ne veut pas dire que le dogme de l'Église catholique, le pape s'est trompé. Ouais, non, le pape ne s'est pas trompé. C'est toujours pareil. Ça manque de précision. Et il faut avoir plus d'amour. Alors, si on s'accroche à une formule dogmatique, elle est vraie, à condition qu'il y ait plus d'amour. Filioque, oui, filioque, bien sûr. Moi, j'ai toujours été très content de dire l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Je sais pas, ça met dans des états savoureux de dire ça. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Et vous savez bien que ça me met dans des états savoureux. Je sais pas, c'est... Pourquoi ? Pourquoi à cause de la sponsalité, parce que les deux premières personnes de la Très Sainte Trinité. Moi, vous savez, j'ai pour mon frère jumeau un amour fou, quoi. Fou, c'est vrai. Et c'est normal, la jumélité, c'est comme ça. C'est pas un amour sensible, vous voyez. C'est pas une affectivité sensible, c'est une affectivité métaphysique. C'est une affectivité ontologique, c'est une affectivité humaine. C'est une affectivité humaine, l'union jamais l'air d'amour. On ne peut pas renverser ça. Et on aurait dû tous être créés comme ça. À cause du péché originel. Toutes mes condoléances. Vous êtes seul. Vous êtes engendré comme ça dans l'ipsolipsisme transcendantal. Alors c'est... Mais déjà savoir que c'était l'intention et la sagesse créatrice de Dieu ne renonce jamais. C'est pas parce que le péché originel, il y a une conséquence de corps, mais quelque part, il y a encore l'intention créatrice de Dieu. Alors il envoie son fils dans la chair. Et le Verbe de Dieu illumine tout homme, toute femme, à l'instant où elle commence à exister dans le monde. Et donc la personne même du Verbe se trouve là, et se trouve là, elle porte le nouvel enfant de Dieu. Et lui-même, le Verbe de Dieu, dans le oui originel, il sait très bien que dans la cause finale, il l'inscrit tout de suite dans le livre de la vie. Dans le livre de la vie, il est lié à l'Immaculée Conception, dans la chair, dès cet instant primordial. Et quelque part, avec Marie, avec le Verbe de Dieu, Marie, et le Verbe de Dieu, ah, il y a comme un amour jamais l'air possible. On n'est pas tout seul, même ceux qui ne sont pas baptisés. Hein. La preuve, c'est qu'on est baptisé bien après. C'est une alliance chrétienne, la création de l'âme. C'est une alliance chrétienne. Le bouddhiste, le musulman, l'athée fou, le fils du conçu dans la magie noire, tout ça. Connaissent une alliance chrétienne. J'aimais l'air. C'est l'histoire du jumeau. C'est pas du tout, rien de savoir ça. Que ce qui se passe dans le saint dessein originel, la paternité de Dieu qui est de l'amant, dans la demeure initiale. Mais c'est secret, c'est vrai, c'est secret. De la clôture, de l'intimité. Dans le principe, il y a une clôture de l'intimité. Et c'est pour ça, à cause de ça, que le Père n'est jamais envoyé et qu'il demeure. Et qu'il y a les deux bras de Dieu, les deux bras du Père. Il envoie son Fils, il envoie l'Esprit Saint. Merci aux os. Oh, dit-on. Merci à Saint Simon, le nouveau théologien. Merci aux saints orthodoxes d'avoir rappelé ça. Merci à Saint Grégoire Palamas. C'est immensément grand, ça. Et c'est vrai, quand vous faites Saint Thomas d'Aquin, explique une chose. C'est que quand vous faites... il dit le but de la vie chrétienne, comme l'explique les orthodoxes, c'est de doriser la très sainte Trinité à prendre possession principale de notre chair. Prennent possession. La vie principale de notre chair, de notre sang, ça ne doit pas être notre âme. Ça doit être les personnes de la très sainte Trinité. C'est les personnes. Et pour ça, bien sûr, il faut que le Verbe de Dieu prenne totalement possession de chaque particule de matière. Spirituelle, c'est-à-dire immédiatement omniprésente de notre corps, mais aussi de toute chambre nuptiale de la paternité de Dieu, voilà pour la cellule vivante, et aussi de chaque goutte de sang, voilà pour ce qui relève de la proximité de la chair dans le Verbe de Dieu, en comme elle possède, et pour l'Esprit Saint, le Père envoie l'Esprit Saint en nous. Et il prend possession de toute notre chair. Il prend possession de tout notre corps. Et il prend possession de toutes nos puissances d'amour, de lumière et dedans. Cinq fois dans l'acte pur de l'envoi du Saint-Esprit en nos âmes. Et c'est ce qui produit l'énergie de notre pleine possession par les personnes de la très sainte Trinité dans l'envoi de ces personnes divines à l'intérieur de nous. Regardez, vous comprendrez tout de suite ce que je veux dire. Beaucoup de spiritualités vont dire, voilà, je vais vous apprendre la prière. Pas besoin de faire un dessin. Scientifique un peu, science de la prière, alors la prière, et on va faire, voilà, vous allez rejoindre Dieu en vous. La prière c'est avec Dieu, hein. C'est Dieu et nous, on est très très d'une relation avec Dieu, mais vivante, quoi, c'est ça, hein, religion. Une relation religio, je suis relié, religare, c'est une religion, c'est une ligature intime avec Dieu. On disparaît dans l'unité de Dieu, c'est ça. Alors comment est-ce qu'on fait? Ben, c'est très simple, il suffit de descendre profondément en dessous de tous tes côtés un peu humains, encore plus bas, toujours plus, jusqu'au principe, jusqu'à la source qui est Dieu. Ça va? Et une fois que tu as trouvé la source qui est Dieu, alléluia! Tu t'enfonces dedans, tu fais disparaître tout le reste qui est trop superficiel, hein, et tu te déploies dans la source de Dieu qui est partout. Et tu fais l'unité de tout ça, et voilà, ça y est, tu es en prière. Voilà une méthode. Oui, Descartes aussi, c'est pas mal ça, la science de la prière. Voilà une méthode qui te met totalement en dehors de la prière. Pourquoi? Parce que le principe au-delà duquel tu ne peux pas aller, de tout amour, de toute vie en toi, c'est pas Dieu. C'est ton âme. C'est l'âme. C'est par induction, c'est une induction. Avec les cinq voies d'accès qui permettent d'aller jusqu'au principe de en nous, qui est source divine. Ouais, si on veut, c'est divine. C'est vrai qu'il y a quelque chose de divin dans notre âme, parce qu'elle est un principe au-delà duquel on ne peut pas aller. Un principe, on ne peut pas aller. Hein. Prenez Aristote, prenez Platon, on ne peut pas aller plus loin qu'un principe. Il n'y a pas quelque chose avant le principe, parce que ça voudrait dire qu'il y a un principe au principe. Donc c'est plus un principe. Donc quand on touche l'âme, qui est un principe, je confonds mon âme et dis j'adore mon Dieu. En fait, tu t'adores toi-même. En réalité. Formellement, en toute vérité, métaphysiquement, c'est ton âme que tu adores. Donc, tu ne t'adores toi-même. Et donc, tu respectes pas le premier commandement de la prière, qui est l'adoration d'un tout autre que toi-même. Énormément de gens pensent qu'ils prient. Vous voyez ce que j'ai dit? Il pense qu'il prie. Et puis, en fait, ils s'adorent eux-mêmes. Le bouddhisme, c'est ça. C'est pour ça que les bouddhistes, qui eux sont très lucides sur ce qu'ils font lorsqu'ils disent voilà la prière, ils font exactement la même chose. Mais eux, ils sont lucides. Et c'est pour ça qu'ils aboutissent à une vérité tout à fait exacte. C'est qu'ils aboutissent à une vérité, c'est que dire qu'on ne peut pas aller au-delà. Et ils déduisent de ça que Dieu n'existe pas. Ce qui est parfaitement exact. Si tu prends la voie de l'âme, tu ne peux plus trouver Dieu. Et comme pour la trouver, pour t'y engloutir dans l'union religieuse avec lui, toute divine, parfaitement divine, lui, avec ton âme, si tu t'adores. C'est terrible ça, il faut quand même savoir la différence entre adorer Dieu et s'adorer soi-même, non? Vous ne croyez pas? croyaient pas que c'était important. Alors, grâce à Dieu, il y a les orthodoxes. Merci de nous avoir donné les orthodoxes. Dis quand tu adores ton âme.
Ouais.
Et ils sont proches de l'un d'eux. Les orthodoxes. Et ils sont à la bordure de l'Inde. Et ils savent la différence entre l'Ayavan Mokta, l'adoration de soi, et du Néant, dans l'anatement, et l'anéantissement du coup de toute présence de Dieu en nous et dans tout l'univers. On chasse, en faisant ça, on chasse Dieu même de l'univers, puisque l'homme a autorité sur l'univers. Et du coup, on s'associe au Kaal, c'est-à-dire au démon. On ne peut pas s'adorer soi-même sans s'associer au diaphane cosmique des Kaal. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un de très sympathique qui s'appelle le sage de la Dodol qui a édité un petit truc là-dessus. Regardez ce que ça donne. C'est pas de la prière. C'est pas de la prière. C'est de l'intériorité, mais c'est pas de la prière. C'est l'intériorité qui chasse Dieu. Non pas seulement de nous, mais de partout. Alors Dieu doit être présent partout. C'est l'anti-providence de Dieu, si vous voulez. Bon Dieu est beaucoup moins à l'aise, même dans sa providence. Il y a une action efficace sur la providence de Dieu. De faire ça, c'est pas du tout neutre. C'est pas du vide, quoi. C'est pas du vide, c'est très très très... C'est un rayonnement. Les énergies, ça, réellement les énergies. Mais si on s'est habitué sur cette voie, voyez, regardez, vous êtes d'accord avec moi, on est tellement dans notre vie chrétienne, notre parcours, comme vous dites, on est tellement, tellement, tellement associés. On croit que ça nous aide, en toute sincérité, à des trucs qui intègrent la médiumnité, qui intègrent les énergies. Surtout quand on s'approche de ceux qui s'intéressent beaucoup à Saint-Hildegarde, par exemple. Alors, les énergies. Ah, les énergies. Eh oui, les énergies. Mais c'est quoi, les énergies? Et quand je ne sais pas faire la différence entre l'énergie, l'acte pur, créateur dans l'essai de ce qui existe en tant qu'il existe, et puis les énergies qui sont précisément ces énergies, dans l'anatement, c'est-à-dire ce rayonnement de pour faire disparaître la présence de Dieu de notre univers. Et si je confonds les deux, c'est effroyable. C'est pour ça qu'on remercie beaucoup les orthodoxes. C'est certains des aspects, vous savez, du rapprochement avec les orthodoxes. Après, les orthodoxes étaient là pour écouter tous les évêques latins au Concile Vatican II, par exemple. Ils étaient là, et puis... c'était là aussi au synode qui a eu lieu en 72, là à Lourdes. Et c'est là. Ils se sont levés à un moment donné, on les a fait parler. Et ils ont parlé longuement, longuement. Ils ont dit, vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Vous avez oublié la très sainte Trinité. Vous avez oublié l'Esprit Saint. Vous avez oublié le Verbe de Dieu. Vous avez confondu les énergies avec l'acte pur. Des relations substantielles, l'envoi de Saint-Esprit. Pas une seule fois vous avez évoqué. Vous avez oublié, vous n'avez pas abandonné, mais oublié. Et prenez garde, frère, successeur de Pierre, prenez garde de ne plus jamais recommencer à l'oublier. Parce que sinon, ça fera une église de plus. Perdu à jamais pour le royaume de Dieu. Ils en parlaient comme ça. Les orthodoxes, à Lourdes. C'est vrai. Comme les pharisiens devant Jésus, qu'est-ce qu'ils disent? Mais qu'est-ce qu'ils disent là? Puis en plus, ils sont en noir, là, avec un truc noir. Là. Ils ont raison. C'est génial. Moi, les sacerdotes, j'aime beaucoup parce qu'ils sont d'accord avec saint Thomas d'Aquin. Donc, il y a un problème. Donc, c'est saint Thomas d'Aquin, la mission invisible des personnes divines dans notre âme. Vous comprenez? C'est ça qui compte. C'est ça qui fait qu'on perd le contrôle, puisque le contrôle est donné aux personnes, aux missions invisibles des personnes divines. Tant que tu contrôles bien ta situation, de ta spiritualité, dans ta religion, tu gardes bien le contrôle, tu as quand même tes repères et tout ça. Si c'est ça, c'est foutu pour toi. C'est foutu. On perd, vous voyez, c'est ça. On comprend que l'oraison soit quelque chose, non pas du tout extraordinaire, mais absolument et impérativement nécessaire, condition sine qua non pour être catholique, pour être orthodoxe, pour être chrétien. C'est le fruit du baptême. Sinon, s'il n'y en est pas dans le principal, quand je dis le principal pour ne pas dire, il ne faut pas qu'il y ait une once de sécurité, voyez, religieuse. Moi, j'ai mes repères. Ah, c'est en dehors des clous. Ah, et je suis déstabilisé, comment voulez-vous que je fasse ma pastorale? Il n'y a pas de clou. Dans la mission invisible des personnes divines, il n'y a pas de clou. C'est pas le respect des rubriques, vous comprenez? Alors, maintenant, saint Thomas d'Aquin a dit une chose que je trouve qui est très... qu'on nous a rappelé souvent, quand on comprend qu'on fait le traité de la grâce dans saint Thomas d'Aquin, le traité aussi c'est dans le traité de la très sainte Trinité, hein, que saint Thomas d'Aquin... Si un jour vous ne savez pas quel traité il faut faire dans saint Thomas d'Aquin, parce qu'il y en a un des traités, hein, il y en a 492, je crois. Bon, si vous en prenez un, le traité de la très sainte Trinité, au moins celui-là, quoi. Au moins celui-là. Bon. Allez, à raison de 2-3 heures par jour. Je pense qu'en un mois, vous y arriverez à faire le traité de la très sainte Trinité. C'est tout simple, quoi. C'est vite fait, quoi. Traité de la très sainte... Mais il termine son traité de la très sainte Trinité. Saint Thomas d'Aquin. Vous pouvez faire justement les dernières questions du traité. C'est la mission invisible des personnes divines, Père, Fils, Saint-Esprit, dans notre âme. D'accord? Celui qui arrive et son centre de gravité de toute sa vie, pas seulement contemplative, pas seulement d'oraison, mais toute sa vie même active. Si le centre de gravité, c'est pas ça,
ça coince.
Attention, moi, s'il rencontre un orthodoxe, il va dire, toi, tu vas pas plus loin que le gars de la scientologie. Tu gardes tes repères. Tu cherches le contrôle. Et tu contrôles. Et le contrôle, ça veut dire que tu confonds ton âme avec Dieu. C'est toi qui domines ta vie catholique. Saint-Esprit n'a pas le droit de passer chez toi. C'est pas lui qui prend le contrôle. Et quand c'est Saint-Esprit, tu perds tout. Tu perds absolument tout. Alors, quand ça... tu commences à rentrer là-dedans. Et ça te donne un peu de vertige. Ça te déstabilise. On s'est habitué quand même avec les énergies à trouver une certaine équilibre, harmonie. C'est pour ça que notre situation n'est pas facile. Parce que notre situation, notre éducation chrétienne, hein, depuis 50 ans, c'est... comme on ne sait pas faire avec le Seigneur, avec la grâce et avec la sainteté, et bien du coup on comble avec les énergies métapsychiques et la recherche de l'âme. Vous voyez ? Il y a beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de liberté, beaucoup de générosité, beaucoup de... mais c'est tout faux. Et quand d'un seul coup on le découvre, et en plus c'est ça qui est génial, il faut voir ça. Et en plus, on veut y entraîner les autres. L'esprit de contrôle, ça, oui. On veut y entraîner les autres. Hein? Ma Mourine. Oh là là. une sainte fille. Alors les orthodoxes sont là, disent non, non. Alors, vous voyez, l'émission invisible des personnes divines, vous voyez, chaque fois qu'on on fait, c'est pas des sermons que je fais, vous avez remarqué que c'est pas des sermons, on fait des petites rappels du catéchisme élémentaire pour les enfants, c'est CE2, CM1. C'est vraiment le truc hyper basique quoi, pour des enfants. C'est, niveau CE2, avec vous, je crois que je peux pas aller beaucoup plus loin. Hein. C'est, heureusement. Hein, c'est, après tout, comme ça, ça me fatigue moins. Hein, parce que si j'avais affaire à des gens qui étaient du niveau un peu plus, quoi, il faudrait que je prépare mon machin, quoi, que ce soit un peu plus. Là, bon, niveau CM1. C'est moins fatigant pour moi. Et c'est pas fatigant pour vous. Donc ça va. Hein. C'est de la petite goutte de lait, quoi. Petite goutte de lait. Et quand on n'a pas l'habitude du lait, on est quand même fatigué. Hein. C'est quand même. Alors, qu'est-ce qu'il dit, saint Thomas d'Aquin ? Oui, comme je tourne autour du poulet, comme vous êtes obligé de. Dans la mission invisible des personnes divines de notre âme, il y a quelque chose de tout simple. Quand tu fais oraison, quand tu es. Tu t'abandonnes, non pas à ton âme, mais que tu sors de ton âme. Alléluia. C'est spirituellement qu'on sort son âme. Est-ce que cette vision fausse de nous, qui est dualiste, hein, en nous, ben, y a l'âme et puis le corps. Hein, yin-yang. Hein, principe masculin, principe féminin. Ben oui. Encore ici, là, ben oui, un principe masculin, un principe féminin. En chacun de nous, voilà. Alors, ça, du coup, ben oui. Yin yang, c'est énergie, c'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est contraire au réalisme de la vie. C'est imaginatif, c'est idéologique, c'est diabolique. C'est du gender, c'est de la genderisation. C'est l'intention luciférienne d'origine pour séduire l'homme et la femme. Pour leur dire qu'ils ne sont pas image ressemblance de Dieu en tant que étant sous le contrôle de l'au-delà de l'unité des deux dans l'unité spontanée. Il faut. C'est le seul point de la tentation de Lucifer. L'unique. Le seul point qui flatte l'ego transcendantal de chacun. Et le seul point par lequel je peux m'identifier, sans m'en rendre compte même, à Lucifer. En pensant que je fais plaisir à Dieu, parce que Lucifer s'identifie à lui-même, et il pense faire plaisir à Dieu.
C'est faux.
Ben, Lucifer, bien sûr, il pense faire plaisir à Dieu, c'est pour servir de Dieu, Dieu se trompe, c'est tout. Et puis voilà, donc il faut quand même savoir quand même il y a un combat hein, entre Dieu et Lucifer. Hein. Si on n'est pas au courant avec ça...
Justement, ça va l'en.
Alors, donc, c'est pour ça que l'Église est là, Jésus est là, le Saint-Père, Marie est là pour dire non. Quand tu t'adores toi-même, c'est le contraire d'adorer Dieu. Mmh. Non, c'est pas yin et yang. Ça... creuse seulement un feu, un tout petit peu, pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Et regarde par expérience concrète, et tu t'aperçois qu'il n'y a pas d'yin, il n'y a pas de yang. Il n'y en a pas. Néant, et ça n'existe pas. C'est purement imaginatif. Oui, oui, bien sûr, il y a une production d'yin et yang dans les énergies produites par tous ceux qui ont livré leur vie. Ayavan Mukta, et qui ont donné aux démons des énergies humaines pour les disloquer en dualisme et provoquer ces énergies qui, elles, s'introduisent à nouveau en toi. Parce que les démons n'ont pas de chair. Les démons n'ont pas de sang. Lucifer n'a pas la chair. Mais si les hommes s'adorent eux-mêmes dans leur âme, eh bien, ils se livrent comme ça. Ils font, ils enlèvent l'unité providentielle de l'univers dans sa cause finale et ils livrent tout ce qu'ils sont en dehors de l'âme donnée toute pure, quasiment immatérielle, à ceux qui habitent le diaphane cosmique. Et du coup, les démons reçoivent les énergies de l'homme brisé, de l'homme rayonnant de ce qu'il est en dehors de Dieu. Et saisissant ainsi ces forces qui relèvent de la chair, ils peuvent produire dans notre univers les énergies qui donnent l'impression, cette fois-ci diabolique, que la création de l'homme et de la femme vient de lui. Et c'est ce qui a fait l'essentiel, j'allais dire, de la tentation de Cain, et aussi bien sûr des filles de Cain. C'est comme ça que le péché s'est diffusé dans le monde. Et un des héritiers de tout ça, c'était un des fils de Noé, qui était pas complètement infesté, mais un peu de ça. Et qui a communiqué ça.
Cham ?
Oui, il s'appelait Cham, celui-là. Mais il faut comprendre ce que c'est. Dans la pratique mystique, ce phénomène, quoi. Ce phénomène métapsychique. Le phénomène métapsychique n'est pas un phénomène noir, hein. C'est un phénomène blanc. C'est des énergies très, très, très pures de lumière et d'amour. Très, très, très pures. Ça n'intéresse pas à Lucifer de recevoir des hommes, des énergies noires. Ça l'intéresse d'avoir les énergies les plus pures, les plus proches de l'Immaculée, les plus proches du Messie, les plus proches. Et il s'en sert ensuite pour combler la soif que nous avons, parce qu'au départ, nous avons une unité gemellaire. Et tant qu'on n'est pas comblé, à ce moment-là, il ne peut pas vraiment nous tenter sur la fin. Et il va y avoir une dualité. Il n'y aura pas de sponsalité. Il y aura le couple, il n'y aura pas la sponsalité. Là, mon grand-père avait raison. Dès que tu prononces le mot couple, tu fais alliance avec Satan. Parce que ce mot réalise ce qu'il signifie. C'est toujours satanique. Tandis que le mariage, la sponsalité, c'est toujours de l'amour spirituel dans la chair incarnée. C'est une petite goutte de sang qui accumule tout le mouvement éternel d'amour de Dieu dans ce qui est petit et vivant en nous, grandissant. Oui. Si on lâche ça, on tombera dans le dualisme. Et ce dualisme, lorsqu'il s'exerce, voyez, dans une gnose, c'est-à-dire dans une explication, ben, ce sera du dualisme toujours. Hein. Ce sera aliéné. Bon, alors pour nous, tout le monde sait, yin-yang, bon, c'est pas uniquement ça. Hein. C'est toutes les formes, l'étoile de l'île, vous avez la première, puis la deuxième, quoi, etc. Enfin, tout ce qui est blanc, noir, gris, ce que vous voulez. C'est toujours du dualisme. Voilà. Jean-Paul II dit non, c'est la très sainte Trinité, c'est spirituellement, les orthodoxes, c'est Saint Thomas d'Aquin, c'est pas du dualisme. Aucun, oui. Ça, c'est autre chose, c'est pour... Je laisse tomber parce que on revient en CM1. On va pas parler de Occam en CM1. Alors, dis-moi là. Les orthodoxes disent Saint Thomas d'Aquin. C'est pour ça, orthodoxe, Saint Thomas d'Aquin, c'est pareil. Hein. C'est pas compliqué. C'est très simple, c'est pareil. Voilà. Donc, quand vous faites en raison, mais vous sortez de vous-même, votre âme s'éteint. Vous sortez, vous ne cherchez plus ce qu'il y a de très pur, de grand, de magnifique, de là où vous étiez arrêté avant, quoi, dans votre état de grâce, de charité si sublime et parfait, dans votre âme. Vous avez des gens qui prient comme ça, en disant, ça y est, je reviens à ma quiétude habituelle. On raconte toujours l'histoire de Saint Jean de la Croix, le petit novice qui était là tout seul la nuit et dans la chapelle. Et donc Saint Jean de la Croix, il n'avait pas vu le petit novice. Que Saint Jean de la Croix était au fond là sur un petit banc dans le noir et lui s'était mis bien près de la croix. Et Saint Jean de la Croix, il entend le petit novice qui parle à Dieu, quoi, à Jésus, tout ça. Dis, Seigneur, remercie toutes les grâces que tu m'as données, cette union parfaite, etc. Oh, Seigneur, c'est que je t'aime tellement, mais c'est un miracle, c'est ce miracle d'amour si sublime, si transcendantal, si surnaturel, si dépassant tout. Cette transformation dans laquelle je suis, c'est j'aurais jamais cru que tu puisses me donner autant d'amour pour toi et que je dise oh Seigneur, fais en sorte que personne ne le sache, que toi et moi, que personne ne le sache. Il pensait faire un acte d'humilité, tu vois, que personne ne le sache. Alors Saint-Jean de la Croix s'était approché, il s'est mis près de son oreille, il a dit, dites au Seigneur, faites que je ne le sache pas moi-même. C'était son ego, dominateur, jouisseur et captateur. C'était psy. Tant que c'est toi, là, tu fais oraison, tu reprends l'état de quiétude dans lequel tu avais été mis par grâce de Dieu, merci beaucoup. C'est l'attitude pharisaïque, vous savez, c'est inouï, la tromperie pharisaïque. C'est pas mauvais, la vertu de religion. Personne ne méprise la vertu de religion. Mais ce n'est pas la foi qui est justifiée. Ce n'est pas la charité venue d'en haut. Ce n'est pas l'espérance. Voilà les deux paraboles. C'est ce qu'on a vu ce matin. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas l'espérance. D'accord.
C'est une forme d'auto-hypnose.
Alors, hein ?
C'est une forme d'auto-hypnose.
C'est un orgueil fou. Plus on se rapproche de Dieu, plus on risque de tomber dans un orgueil fou. Il y a un repérage quand même, je vous signale au passage. On peut repérer quand même. Ouais. Parce que on voit qu'il y a un esprit de contrôle. Dès que vous repérez qu'il y a un esprit de contrôle, ça, c'est sûr que vous avez fait fausse route. Et depuis longtemps. Hein. Là, il faut arrêter tout de suite. Hein. Tout de suite. Tout arrêter. Tout laisser tomber. Hein. Et reprendre vraiment tabula rasa. Voilà. Quand on arrive à l'esprit de contrôle, ça, c'est sûr.
Qu'est-ce que vous avez l'esprit de contrôle de...
Bon, quand même, c'est pas compliqué. L'esprit de contrôle, c'est que... Voilà, ça va. Merci Seigneur. Je contrôle la situation. Et surtout, je veux... emporter ce qui m'entoure, hein, l'esprit de contrôle sur les autres aussi. Hein. Ce que tu vis, c'est pas du Seigneur, ce que tu vis, c'est pas comme ça, non. L'esprit de contrôle, il prend contrôle de ce qui se passe dans l'âme de quelqu'un d'autre.
D'accord.
Dans l'esprit, je vais être le conseilleur. l'esprit de contrôle, je vais être le conseiller, je vais être le... Mais l'Esprit Saint, il est délicat. Jésus dans l'Eucharistie s'adapte à chacun. Il n'a pas d'esprit de contrôle, Jésus. Après, il respecte le Père. C'est le Père qui envoie son Fils. C'est le Père qui envoie l'Esprit Saint. C'est les deux mains du Père. Les missions invisibles des personnes divines. S'il y a tant soit peu d'esprit de contrôle de ta part ou de la part de quelqu'un d'autre sur toi, c'est fini. Il n'y a plus de mission invisible des personnes divines dans ton âme. Tout le respect inouï. Marie n'a jamais exercé un esprit de contrôle sur personne. Évidemment. Ah, Marie est notre modèle quand même. Marie, modèle de notre foi. Donc dès qu'on repère un esprit de contrôle chez nous, c'est sûr qu'on a fait fausse route. On s'est fait piéger par Satan. C'est pas très compliqué à repérer, je pense. Et puis pas trop difficile à comprendre. Et du coup, on est déstabilisé parce qu'on se dit, mais j'ai mis toute ma sincérité, toute ma générosité, toute mon ardeur. Je me suis mis à dos même tous les gens par amour de Dieu. C'est pas vrai? Alors, on est déstabilisé. Et puis j'ai pris des trucs qui viennent de Dieu quand même. C'est vrai. Regardez, alors, on essaie de bétonner, puisqu'on ne sait pas. On est une génération en difficulté, nous, hein, parce que, regardez, hein, il faut qu'on va chercher des gens qui voient plus clair que nous, mais qui sont médiums, voilà. Je lâche le mot, quoi. C'est des médiums catholiques, quoi. Même des médiums catholiques, ça reste des médiums. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Voilà, donc... ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Donc, face à ça, donc, les missions invisibles des personnes divines. Sans arrêt. Le prêtre, le pape, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Disent non, faites en raison dans la cinquième demeure et la sixième demeure. Stop. Moi aussi, personnellement, ça m'arrive de parler comme ça à des gens. C'est à peu près les deux tiers de mes paroles, c'est non, faites en raison. Bon, je le répète une deuxième fois. Même chemin. Ça, le chemin, là, est rectiligne. Hein. Mais la ligne pure, c'est pas ça. Dans le monde nouveau, c'est le miracle des trois éléments. Bref, je reviens sur saint Thomas d'Aquin, les missions invisibles des personnes divines. Quand vous faites oraison et que vous avez la gentillesse, la politesse de faire que ce soit Dieu qui se serve le premier, c'est pas vous qui vous précipitez sur l'auge des grâces que vous avez déjà dans votre âme. Vous savez, la politesse, ça. Vous voyez, comprenez, Sainte Thérèse d'Avila dit, c'est des choses qui s'apprennent dans le concret du quotidien, ça. Si vous ne le faites pas dans le quotidien avec les autres, c'est qu'au moment de l'oraison, vous n'aurez pas le mouvement du tout, d'avoir la politesse, que ce soit Dieu qui soit nourri en premier. Et pour qu'il soit nourri en premier, il faut qu'il prenne toute la place, immédiatement. Immédiatement, que celui qui prenne toute la place, c'est une présence extrêmement délicate. Extrêmement délicate. Extrêmement délicate. C'est pas infiniment délicate, mais extrêmement. C'est pas une délicatesse infinie, pas du tout. C'est pas une quantitative. C'est pas une qualité de délicatesse inatteignable. Non, c'est pas la qualité. Ni la quantité, ni la qualité. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est la substance? Ce n'est pas la substance. C'est l'acte pur de Dieu. l'acte pur de Dieu, il est là et il respecte l'invitation. Mitzvot, il respecte l'enfant de Dieu, il respecte le Père, il respecte. Et donc, s'il est invité, c'est ça la mitzvot d'Elohim, alors il prend sa place à table. Et je fais en sorte que je ne remette pas aussitôt, au bout de 3 minutes d'oraison, ma grosse pâte. Donc, tiens, je vais faire une prière pour m'exciter pour exciter ma dévotion. Ah, je mets ma grosse pâte, tu vois. Non, je fais très attention que ce soit uniquement ce moment inouï, extrêmement délicat, de Dieu seul. Même mon corps de l'intérieur de ce qui illumine et vivifie, et mon corps de l'intérieur du corps, ne fait aucun mouvement. Et cette unité, ce recueillement, Dieu me recueille et prend sa place, comme un parfum. Il y a une saveur délicieuse, mais ineffable. C'est comme de la lumière. Mais c'est une lumière savoureuse. C'est une lumière vivante. Dieu est fabriqué avec de la lumière. Le Père est lumière. Le Verbe est lumière. L'Esprit Saint est lumière. Et il est vivant, mais sa vie d'une délicatesse inouïe, à peine perceptible, pas imperceptible. Si dans ta tête tu fais de la grosse caisse, c'est sûr, tu vas pas apercevoir. Hein? Si c'est la folle du logis. C'est-à-dire, c'est d'être seulement dans la première demeure des débutants, quoi. C'est embêtant, quelqu'un qui fait oraison, au bout de 40 ans, il est encore dans la première demeure, c'est qu'il y a un problème. C'est que son ego est hypertrophié, quoi. C'est sûr. Bon, ça, c'est... J'ai pas besoin de venir là-dessus, il n'y a pas besoin d'être un théologien pour comprendre ça. Bon, très bien. Il faut un minimum d'humilité, d'obéissance. D'obéissance dans le quotidien et de virginité, bien sûr. Hein? C'est sûr, il faut les trois, hein? Il faut la vie contemplative, il faut l'amour et il faut la liberté spirituelle. Il faut une liberté spirituelle. Et la liberté spirituelle, c'est essentiellement de permettre que Dieu se répande à titre de personne. C'est son cœur, son amour, sa lumière, sa délicatesse personnelle qui se répand. Qui répand son parfum, sa présence dans tout moi. Bon, il faut 2-3 minutes au début d'oraison pour arriver à cet état. Je suis d'accord qu'au début, on peut admettre qu'on arrive à y rester pas beaucoup plus comme ça, suspendu à l'action divine de Dieu seul. Dans mon silence de recueillement, absence de mouvement venant de moi seul, et dans l'au-delà d'unité 2, moi, que si ça dure un moment comme ça, plus d'une minute, c'est pas mal quand on est un commençant, quand on a commencé à rentrer dans la grâce catholique. Un nouveau converti, une minute, c'est pas mal, c'est bien au début. Il vient de se convertir, ouais, il ne sait pas ce que c'est. Alors tu prends le baptiste, tu dis voilà, maintenant tu vas rentrer dans la grâce sanctifiante catholique. Tu fais ça une minute de suite, c'est pas mal. Remarque, je connais des catholiques, au bout de 50 ans de vie chrétienne, ils n'arrivent pas plus que 4 secondes. Mais c'est parce que à cause de l'esprit de contrôle. L'esprit de contrôle, c'est foutu. On peut aussi, avec la grâce catholique, donner ses énergies. Oh, dualisme, c'est-à-dire l'esprit cosmique christique. Et je crois que je sers le Jésus de Nazareth alors que je sers le Christ cosmique. Le Christ cosmique, c'est les énergies binaires, yin-yang, qui récupèrent les rayonnements, j'allais dire, de la résurrection du Seigneur dans le cosmos, mais en écartant le Seigneur. Mais il garde les énergies. C'est du courant dans le Christ, dans un rayonnement christique, une transformation christique. Et la transformation christique, elle a évacué la substance même de la personne divine de Jésus de Nazareth, c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça qu'on est totalement christique et du coup totalement luciférien. J'espère que vous avez compris ça quand même, bon, que c'est ça, comme ça qu'on... C'est comme ça qu'on peut discerner où est l'Antichrist et où est Élie le prophète, le serviteur de Jésus de Nazareth, le serviteur de l'Immaculée Conception, le serviteur du Père. Mais aujourd'hui, vous voyez comment on est handicapé, à quel point on se laisse tromper parce que à cause de l'hypertrophie énorme de notre moi, jouisseur, notre droit captateur de notre moi possesseur et notre moi de contrôle. C'est terrible et il y a une hypertrophie énorme, énorme, énorme. Mais pourquoi? Parce qu'on est freudien, hein, on est nietzschien, on est matérialiste et on matérialise tout, même la prière. Et voilà, et on est évolutionniste. Pour nous, la vie. La vie, c'est sacré, c'est beau. Mais non, la vie, c'est pourri. La vie, c'est pourri. De dire la vie, c'est sacré, c'est beau, c'est une illusion. Vous me prenez la peau, moi, je vous prends une fleur, je la pose là, je la pose là, ici, vous allez voir. Ça pue, hein, au bout de 3 jours. La vie, ça se corrompt. Vous mettez un chat, il meurt. Qu'est-ce que ça sent mauvais? Mettez un homme, il est pourri. Au bout de 5 jours, ça sent très, très, très mauvais. La vie, par elle-même, la vie, elle ne cesse de se corrompre. Jamais, hein, la vie ne va vers quelque chose de pur. Ça n'existe pas dans aucune réalité vivante de la nature. Ça n'existe pas, la vie qui devient parfaite. Ça n'existe pas. Et plus la vie devrait être spirituelle, plus sa corruption est insupportable. Mais ah oui, la vie, la vie. Vous devez respecter les animaux, c'est des êtres vivants, c'est comme les hommes, c'est comme les... Ah oui, on est bouffé par ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut pas dire qu'on ne soit pas bouffé par ça. Celui qui dit, je suis pas du tout à tort pour ça, qui nous écrit, qui nous intéresse. On a 60 ans d'infestation du dragon rouge à 7 têtes et à 10 cornes. Alors, donc je reviens à Saint Thomas d'Aquin. On revient en CM1.
Pardon pour notre ignorance.
Non, mais c'est pas ça. C'est pas ignorant. C'est pas la question d'être ignorant. C'est que de plus en plus, on s'approche d'un mur infranchissable à cause du méchant. Hein? Voilà. Et ben, c'est pour ça qu'on se réveille la nuit, hein, pour briser l'opacité invincible du méchant. Il n'en faut pas beaucoup, mais il faut qu'il soit brisé tous les jours. Donc peu importe, je reviens à Saint Thomas d'Aquin et nous disons une minute comme ça, suspendue, où j'ai la politesse, la délicatesse, que Saint-Esprit prenne sa place. Le Père, l'amour, la lumière éternelle. Et regardez, je le Père là. Secondes, c'est l'enfance de l'art. Franchement, c'est pas difficile. Une minute de suite, c'est pour les commençants. Encore que les vieux routards de la prière, hein, moi j'en connais, 30 secondes, ils n'y arrivent pas. Hop! Ils n'y arrivent pas. Croisez les bras. là qui gesticulent, c'est des moulins. Si tu mettais une caméra rapide, tu serais affronté. Tu verrais caméra rapide, tu vois ceux qui sont en horizon d'inquiétude, ils ne bougent pas pendant une demi-heure, pas un mouvement. Hein? Et puis les ténors de la vie catholique, ça bouge de tous les côtés, quoi. C'est, tu, pourrais, tu as l'impression que c'est un ventilateur, quoi. Alors, évidemment, s'il fait chaud. Ben oui, mais le souffle de l'Esprit Saint. Où est-ce que. Il faut bien parler à des CM. Le souffle de l'Esprit Saint, c'est un mouvement d'amour. Délicat. Perceptible. Perceptible. Fabriqué avec de la lumière, parce que la vie de la personne divine, comme la nôtre d'ailleurs, est lumière. Mais il n'est pas perceptible, suave, délicieuse, souverainement en affinité avec tous ceux qui l'invitent. Et si dans l'horizon je dis, oh Seigneur, tu m'énerves, hein? C'est-à-dire, tu dis, bon, allez, ça me gratte ici. Et on trouve toujours des prétextes. Tiens, ça me gratte un peu. Ah, des prétextes, on trouve tout le temps. Hein, tout le temps. Ah, j'ai mal aux fesses. Tout le temps, on trouve tout le temps. Mais si tu es recueilli, vous connaissez l'histoire de saint Thomas d'Aquin, quand il arrive chez son dentiste, ça fait mal quand on t'arrache des dents. Là, il dit, attendez. Si vous permettez, docteur, laissez-moi juste 3 à 4 minutes. Il fait oraison. Il rentre en oraison de quiétude. Et une fois en oraison de quiétude, il fait un petit mouvement de tête. Ça veut dire que vous pouvez y aller. Et il peut arracher ses dents. Il est en oraison de quiétude. Ça fait 100 fois moins mal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu bouffes comme anesthésique ? La mouche, quand tu es en horizon de quiétude, tu la sens plus. Si tu la sens encore, c'est que vraiment, hein, tu es loin de la vie spirituelle. Tu n'as même pas commencé. Parce que saint Thomas d'Aquin, saint Père Garrigou, tout ça, ils expliquent que ta vie sanctifiante, de grâce sanctifiante, c'est-à-dire pas de vertu de religion, commence après la quatrième demeure. Bon, on est en CM1, c'est ça, donc on continue. Quand même des repères, quand même. L'Église catholique, c'est génial, elle est infaillible par ses repères, ses indications. Ah, ça nous déstabilise, hein, dans notre ego, hein. Jouisseur, dominateur, et possesseur, métapsychique, catholique, avec son esprit de contrôle. Alors, voilà. Donc, c'est depuis, ça fait déjà presque une demi-heure que j'essaye de sortir cette phrase. Donc saint Thomas d'Aquin, il dit à propos des missions invisibles, des personnes divines ceci. Je suis désolé, hein. Il dit voilà, lorsque le Saint-Esprit est vraiment invité chez vous, ou le Verbe de Dieu, hein, ou la spensabilité, hein, c'est-à-dire la mort, c'est la deuxième personne, c'est la mort, hein, Jésus, c'est la mort. Éternel, hein? Quand il est, le Père envoie il veut être encore plus présent. C'est pas qu'il veut, c'est que vous avez désiré qu'il soit encore plus présent. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire du désir, parce que le désir, vous l'avez exprimé quand? La veille au soir. La veille, quand vous entendez, pour l'oraison que vous faites maintenant, le matin ou l'après-midi, de l'oraison de ce jour, c'est la veille. Il n'y a rien que Dieu donne qui n'ait été désiré de la veille. Si vous dites, ah, oui, c'est dans 5 minutes que je suis oraison, oui, j'ai oublié de donner un désir, je le donne maintenant, c'est trop tard. Le désir que vous donnez maintenant, ça sera pour demain. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, j'ai pas le temps. Pour l'instant, je suis en CM1 sur un autre sujet. C'est il va y avoir l'émission invisible des personnes divines dans notre âme. Donc, comme je l'ai désiré, et que, évidemment, le bon Dieu désire notre amour dans un amour de réciprocité mutuelle, communion des personnes, et bien, du coup, il va y avoir une plus grande amour, une plus grande possession, une transformation d'amour plus grande. Notre chair sera encore plus transformée dans la liberté de Dieu de s'exprimer à travers notre chair et notre sang, dans notre esprit. Il va y avoir donc, pour ça, le Père va envoyer invisiblement. Son amour déployé de lumière et de resplendissement éternel à l'intérieur de nous et à travers nous dans le monde entier de Dieu. Il va y avoir une mission invisible d'une des personnes divines dans notre âme. C'est peut-être l'Esprit Saint, c'est peut-être la spontanéité, c'est peut-être ce rayonnement, cette manifestation d'amour et de lumière, du moment éternel d'amour qui est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Mais c'est le Père qui l'envoie. Le Père n'est jamais envoyé. Gémellité, qu'il n'est jamais envoyé. C'est pas dans saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin n'avait pas de jumeaux. Je ferme la parenthèse, donc c'est pas dogmatique. Je reviens à ses mains et dit voilà. Et bien quand, dit-il, il y a la mission invisible d'une personne divine dans notre âme, dans l'horizon. Vous pouvez le savoir avec la plus grande certitude. Si dans votre raison, il n'y a pas eu l'envoi d'une des personnes divines, ou des deux, dans votre âme, c'est que votre raison a été infidèle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation de la grâce sanctifiante dans votre âme. Pour que Dieu travaille son enfant, et bien forcément, la grâce sanctifiante va augmenter. Il n'y a pas de cause diminuante dans la grâce sanctifiante. Il n'y a pas de cause diminuante dans la grâce sanctifiante. C'est-à-dire, le degré de liberté que vous avez donné à Dieu, à l'Esprit Saint, au Verbe de Dieu, dans l'oraison de la cinquième demeure, ne pourra jamais diminuer, mais elle pourra s'intensifier, elle pourra se déployer, augmenter, s'intensifier, se multiplier, je ne sais pas comment dire, il y a des cinq à la fois de toute façon, jamais une séparée de ces cinq, mais il va y avoir une, c'est ça, Opus Dei, Dieu va travailler, Dieu va me transformer, c'est une union transformante, la grâce sanctifiante va augmenter, une sainteté plus grande. Dieu va être dans sa sainteté de plus en plus à l'aise avec moi. La grâce sanctifiante va augmenter. Eh bien, il est impossible qu'il y ait une augmentation de la grâce sanctifiante dans mon âme s'il n'y a pas eu une mission invisible des personnes divines dans mon âme. Comment peut-on savoir avec certitude qu'il y ait une mission invisible des personnes divines dans notre âme? C'est très simple, dit saint Thomas d'Aquin. Hein? J'avoue que je n'ai pas creusé le pourquoi. Mais il dit, si votre ferveur silencieuse, délicate, subtile, savoureuse, sous le souffle du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, vous suspend comme ça, sans qu'il y ait aucun mouvement, mais vraiment aucun, pas la moindre pensée, pas la moindre, pas le moindre, même du corps, hein. Vous voyez, même pas le. Mais tu, c'est pas volontaire.
Non.
Mais c'est un mouvement. Quand vous serez en CM2, je vous expliquerai pourquoi il y a. Il y a un petit obstacle pour qu'il y qu'il y a une mission invisible, il y a un petit obstacle. Alors, du coup, ce mouvement se fait, et on me signale à ce moment-là, le Seigneur me signale, que j'ai quelque chose à faire pour me convertir dans le pardon. Mais ça, on y reviendra là-dessus. Si on a le temps, parce que vous savez, c'est court, hein, finalement, 8 jours. Hein. On n'avance pas vite. Hein. C'est vraiment 1 millimètre après 1 millimètre, alors qu'il y a 1000 kilomètres à parcourir. Bon, peu importe, c'est pas grave, on y arrivera, faut pas vous inquiéter. Une fois que le chemin est pris, après on s'arrête plus. Alors, donc voilà, mission invisible, personne divine en train. Si ça dure plus que 10 minutes, hein, donc c'est pas 5e de mars, on sait pas combien de temps ça a duré. Si ça dure plus que 10 minutes, c'est qu'il y a eu une mission invisible du Seigneur dans votre âme, d'une des personnes, d'une des deux personnes envoyées, une des deux mains du Père. Donc c'est, on ne peut pas dire que c'est difficile à entendre. Hein, si, hein, 10 minutes, c'est pour ça qu'il faut faire 22 minutes de raison, parce que dans les 22 minutes de raison, ben, qu'est-ce que vous voulez, il faut quand même... laisser la place à des activités théologales, surnaturelles, qui n'est plus rien, qui appartiennent à la vertu de religion. Plus rien. Et ça prend quand même quelques minutes, surtout pour les débutants, 2-3 minutes, quoi. Puis j'ai un moment de recueillement, encore 1-2 minutes, pour la disponibilité surnaturelle. Et puis après, on y va. Ah, il y a une perturbation qui vient au bout de 2-3 minutes. C'est pas grave, on reprend. On demande pardon. Ah, il y a un sommeil. La tête baisse comme ça. C'est fatigant le travail. C'est un travail, hein. C'est Dieu qui travaille. Tu peux pas faire plus fatigant. Alors, le sommeil vient assez facilement. Il y a des gens qui luttent contre ce sommeil-là. Dans l'oraison, pendant 15 ans, sans arriver à le vaincre. Et ils n'ont ce sommeil-là que dans l'oraison. Non, c'est normal, c'est parce que, voilà, je ne maîtrise pas, donc, allez, je me repose de mes œuvres. C'est quelque part un péché qui est caché derrière ça. Un péché énorme, mais, c'est vrai, personne, mais ils n'ont pas de père spirituel pour dire, écoute, pote, excuse, mais, voilà, hein, tu vas décapsuler ton orgueil monstrueux. Hein. Hop.
Et quand on baille ?
Ben, bah, c'est pareil, quand tu bailles. Et alors, mais chaque mouvement, c'est tous ces mouvements un petit peu différents, compulsifs, hein, compulsifs, puisque ils te viennent dessus. Bon, tu le repères. Hein, petit à petit, tu repères le premier dixième de milliseconde où il commence à venir. Hein, tu commences. Ça, tu le repères. Si tu ne demandes pas pardon immédiatement à ce minuscule mouvement qui commence à faire ça, ça veut dire que tu dis, oh, c'est pas grave, c'est pas parce que je fais, c'est pas grave. Donc ça veut dire que non, hein, ça suffit, c'est le petit cheveu qui suffit à mettre une puce nette dans l'œil de la colombe. Alors la colombe s'en va, Saint-Esprit ne peut pas rester. Parce que tu dis, c'est pas grave si je fais un petit mouvement. C'est tellement infime, microscopique. Et donc, il faut comprendre hein, que c'est Saint-Esprit, le bon Dieu réclame tout dans l'adoration. Il se donne en entier, Jésus. Et nous, la communion des personnes avec lui, c'est si on, dans la réciproque, on donne tout en entier. Si on laisse encore une marque de nous dedans. L'oraison est impossible. Et donc le travail, quoi, la transformation, l'union transformante, la transformation de la matière que je suis, ne peut pas se faire. Donc Dieu est paralysé. Vous voyez ça? Bon, c'est ça le catéchisme de la prière. Vous prenez par exemple le catéchisme de Saint Pie X, il explique ça sur à peu près 120 pages. Ce que je viens de vous dire là. La prière catholique, c'est pas Notre Père, vous savez, Marie, Credo. Non, ça c'est la vertu de religion, c'est les prières qu'on doit savoir si on fait partie de l'Église catholique. C'est les rubriques. Et les rubriques, c'est pas ça qui sanctifie. Les gens de la mafia, ils connaissent par cœur le credo, le gloria, etc. Et les gens de la mafia, ils sont... Vous inquiétez pas, c'est pas... Donc c'est pas les rubriques. C'est à l'amour, alors. Les religions, la foi chrétienne, c'est une foi d'amour. Éternel, surnaturel. Eh bien, regardez, quand vous êtes là, ça dure plus que 10 minutes de ferveur, savoureuse, presque indicible, presque imperceptible, mais perceptible. C'est Dieu qui travaille, qui se répand. Et que ça dure plus que 10 minutes. Dans un tas de ferveur, évidemment. C'est pas un tas de vide, hein. Un tas de ferveur. Pas de vide, hein.
Mais
le vide, c'est
on
binaire.
Pas, on ne doit pas penser.
Mais non, la pensée, c'est un mouvement. Quand tu penses, c'est un mouvement de l'intellect possible. Donc c'est un mouvement. Ni un truc d'imaginaire. Oh, j'imagine quand même que... Ça, c'est... Si tu fais de la pensée et avec de l'imaginaire... C'est que tu fais un exercice de Saint-Ignace. C'est une méditation. Ce n'est plus une contemplation d'union transformante.
D'accord.
C'est pas pareil de l'adoration, la méditation, la dévotion, la contemplation et l'oraison.
D'accord.
D'accord. Voilà. Mais quand tu médites, Tu mets ta pomme quand même pour essayer de comprendre, pour essayer de rentrer, pour essayer de pénétrer, pour essayer de... Tu vois? Bon. Tandis que là, l'oraison, non. Tu fais pas. T'es pas sur le. T'es pas au campus, si tu veux, dans l'amphi de théologie. Tu oraison, c'est autre chose. T'as un campus, tu bosses. C'est toi qui bosses, c'est pas Dieu qui travaille. C'est pas Dieu qui transforme ta matière. Quelle est la matière que tu transformes? C'est cette petite goutte de sang que je suis. C'est pour ça que je vous ai déjà dit la première fois. Il faut d'abord commencer par accepter ce que je suis. Et je suis quoi? Eh bien, avant de dire je suis quoi, je sais que Dieu est un mouvement éternel d'amour avant la création du monde, qu'il s'est concentré, j'ai pas dit incarné, mais qu'il s'est concentré, ce mouvement d'amour, c'est pas la personne divine hein, qui s'est concentré, c'est le mouvement éternel d'amour, qu'il s'est concentré dans une toute petite goutte de sang. Cette goutte de sang, au moment où elle existe, elle est créée, c'est moi. Et cette goutte de sang va grandir, va aller jusqu'à la transformation, jusqu'à l'ouverture des eaux du monde angélique lui-même. Mais il faut donc accepter d'abord ce que je suis, c'est vrai, la memoria dei. Hein. Si je suis pas entièrement Galates chapitre 5, 25, dans la maîtrise du corps primordial, cette goutte de sang, dans cet acquiescement total de ce que je suis. Et cet acquiescement total, ce mouvement d'amour que je suis dans une goutte de sang, et bien il est en affinité totale avec la paternité de Dieu, et donc il envoie son verbe, il m'engendre, et de plus en plus, c'est à travers moi l'univers. D'accord ? Voilà, et bien ça, cet engendrement, je le vois, hein, je le ressens, je l'éprouve. C'est délicat, hein? c'est invisible si on veut, c'est une mission invisible si on veut, mais c'est quand même sensible, hein? C'est quand même... Ah oui, évidemment. Si on a un esprit grégaire, avec ses grosses pattes. Non, mais là, non, on est des enfants de Dieu. Petite goutte de sang, faut accepter ce que je suis. Ce cri silencieux, tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit. assoiffé, désirant. Et Dieu est dedans. Et du coup, c'est tout, cette unité trinitaire de désir permet cette mission invisible de la personne divine dans ce que je suis, et aussi à travers moi dans toute la nature humaine. Et lorsque c'est avec pleine ferveur, pleine conscience, pleine lumière, plein amour que ça se passe en moi et dans toute la nature humaine, pas seulement moi, toute la nature humaine, et que ça dure plus que 10 minutes, c'est sûr que vous avez eu une mission invisible de personne divine. Et la vie chrétienne, c'est faire qu'on ait de mission invisible des personnes divines à la nôtre, à une autre mission invisible personnelle, à une autre, pour que la sainteté, la grâce sanctifiante augmente. Quelle joie de voir tout ça, quelle joie, quel bonheur d'entendre ça. La doctrine de l'Église est libérante, elle nous libère, elle nous met dans une joie invincible. Voilà, et bien voilà, et bien si vous avez ça, vous voyez, ça, ce principe qui est tout simple, mes missions invisibles des personnes divines en femme, permettent à la grâce sanctifiante d'augmenter, c'est-à-dire à la grâce du baptême. Je peux accumuler d'autres grâces qui n'augmentent pas la grâce sanctifiante en moi. Les autres grâces n'augmentent pas. Je reçois des grâces. Ah, ben, je comprends le même truc. Ah, ben, je réalise ce truc. J'ai réussi à guérir par ma prière dans ma fille. Ah, j'ai réussi à convertir cette personne. Ah, ça, c'est des grâces actuelles. Ça n'augmente pas du tout la sainteté dans mon âme.
D'accord.
Et la vie catholique, la vie chrétienne, le baptême, hein, le fruit du sacrement de baptême, c'est de faire en sorte qu'il y ait des missions invisibles et personnes divines. Hein, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Hein. Dans mon âme. Trois en un en trois. Et ça, et le petit signe, je vous dis, 10 minutes, sans s'arrêter. Essayez de faire ça. Bon, moi, je suis balèze, mon horizon, c'est 10 minutes, puis c'est tout. Ah, bravo. Bravo, ça prouve que toi, t'es pas un commençant, t'es déjà au sommet. Vous avez vu, hein? Je dirais pas son nom. Est-ce qu'il est encore vivant? Il dit, moi, je suis à la 8e demeure, donc 10 minutes, c'est sans problème, c'est sans arrêt. Il dit, t'es sûr? T'es certain? Ah oui, Saint-Jean de la Croix est complètement dépassé avec moi. Je suis à la 8e demeure, Saint-Jean de la Croix c'est juste la 7e. Et j'ai des confirmations du Saint-Esprit, hein, de Dieu et tout ça. Rencontre et un brave catho, quoi. Hein. Alors que c'est tout simple. 10 minutes, tu plaisantes, 10 minutes, tu prends au moins 20 minutes, enfin je sais pas comment dire, on est deux quand même. Dieu et nous, on est deux, on est trois même, on est quatre, et 10 minutes, mais non, c'est pour ça. On n'est pas tout seul, donc 10 minutes, non, c'est pas vrai. Oui, tu peux faire un exercice bouddhiste d'union anatman, hein? À la plante, en 10 minutes, ça oui, ça, tu peux faire ce qui est bien. Attention, j'ai pas dit que c'était mal hein, de faire un exercice. Parce que de prendre en main son âme pour la faire disparaître au bout de 10 minutes et rentrer dans. C'est pas mal. Ça peut servir à ça déjà. Parce que les gens ils prennent ça, mais ça y est, je suis arrivé, je suis dans la bodhéité, je suis dans la paix. La paix. Et personne ne peut vaincre cette paix. Et... Ah oui, bien sûr. Mais avec les puissances intermédiaires, ça va infiniment plus vite.
Souvent, c'est des personnes fortement. On sent un truc qui n'est pas normal. C'est
Oui, non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Plus t'es affiché d'eux, plus les savants de la rapidité.
Oui, oui, oui. Le channeling, t'as pas besoin de 10 minutes pour partir au channeling et complètement suspendu. Et ça dure plus que 10 minutes. Le channeling, c'est christique. Hein. C'est christique, tu parles de channeling christique. Ah, oui, c'est côté double. Côté double, c'est... Non, non, double, non, non. Le double, non. Non, 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 non.
Mais j'aime pas vous employer ce mot Christ.
Parce que...
Christique.
Il a...
Ça vient de Christ.
Oui, non, oui, c'est pour ça qu'eux, ils pensent être dans le Christ. Et ils disent c'est christique. C'est le Christ. Je veux être à Christ. Je veux être au Christ. Je veux être christique.
Nous, on ne doit pas employer ce mot.
Nous, si, c'est notre Seigneur Jésus de Nazareth, Messie d'Israël, Christ du Père. Oui, onction messianique, union hypostatique des grâce capitale, source de, en nous, de l'envoi divin. De sa propre personne, de la main du Père. Et tandis qu'on peut très bien ne prendre de tous ces trésors de Jésus de Nazareth, fils unique de Dieu envoyé par le Père, on peut très bien ne prendre que les forces de lumière, d'amour et de liberté aussi, hein, de libération, qui viennent du Christ, mais en coupant de sa personne. Qui est le Verbe de Dieu, en coupant de son fruit spirituel, qui est la grâce sanctifiante, et en coupant, vous voyez, des sources du salut du monde, c'est-à-dire de son corps mystique vivant et entier. Alors à ce moment-là, on est vraiment christique, on est vraiment Christ, si vous voulez, oui. Et on peut faire pareil avec saint type de garde. Il n'y a pas qu'avec on peut très bien faire pareil avec saint type de garde. On peut prendre dans saint type de garde tout sauf l'union transformante. Sauf la mission invisible des personnes divines dans notre âme. Et à ce moment-là, ça devient. Donc, je reviens à CM1.
J'ai rencontré quelqu'un qui était christique, la personne a beaucoup de mal avec la Vierge Marie.
Mais vous avez rencontré quelqu'un, mais c'est 90% des catholiques sont christiques. 90% des catholiques qui vont à la messe qui sont christiques. 90% sont dans les énergies christiques. 90% au moins.
Oui, bon,
il y en a très peu qui rentrent en entier dans la vie de l'union transformante.
Oui,
très peu.
Et
parfaitement conscient, parce que quand ils voient raison, ils bougent. C'est pas leur problème. L'union transformante, la mission invisible des personnes divines, c'est pas leur truc. Et même ça les énerve.
Non, c'est qu'on sait pas.
Mais même quand ils le savent, ça les énerve.
Mais c'est vrai.
Écoutez, de toute façon, c'est pas ça la question. La question, c'est que on regarde pas les gens. C'est pas ça qu'on regarde. C'est Dieu qui nous intéresse. Donc, on va arrêter de regarder les gens, oui. Qu'est-ce qui se passait avec Cain? Il regardait Abel. Et Abel, est-ce qu'il regardait Cain? Abel. Abel n'a jamais vu Cain, n'a jamais regardé, il n'a même pas eu la moindre intuition de ce qui se passait à l'intérieur de Cain.
Mais c'est peut-être pas bien.
Ah, si vous cherchez à sauver votre vie, c'est sûr. Mais si vous donnez votre vie à Dieu, c'est Abel. Si vous cherchez à être prudent, regardez bien autour de vous. Regardez Cain. Mais t'excuses, mais il y en a un qui est agréé de Dieu et l'autre qui ne l'est pas. D'accord? Donc on ne regarde pas les gens. C'est Dieu qui se donne. on regarde. Et ça, ça mobilise toutes nos forces. Et donc notre âme a disparu. Notre vie, voyez, disparaît. Parce que notre esprit fait disparaître notre vie et permet la liberté intime dans notre esprit lié à notre corps. Et comme notre corps a cette dimension trinitaire dans l'au-delà de notre indispensable, dans l'accomplissement de tout, notre vie y disparaît. Si notre âme disparaît, notre lumière, tout extraordinaire. De tous les acquis reçus, de notre union christique avec l'amour pur qui est dans l'univers, disparaît, alléluia. Et du coup, voilà, on rentre là, on rentre dans le oui de l'union transformante. Voilà, le seul, l'unique, j'ai bien dit, l'unique, est fort que Dieu nous demande. Voilà l'enseignement des orthodoxes. Voilà ce qui nous unit à eux. Voilà où Marie est tout à fait à l'aise avec nous. Voilà où l'ouverture des sols d'Apocalypse nous permet de rentrer de manière joannique dans le grand mouvement d'amour, de lumière et de libération du Saint-Père. Le Saint-Père va enfin pouvoir utiliser son pouvoir des clés. On ne passe pas de l'église de Pierre à l'église de Jean. Hein. Ça, non, mais ça, c'est une hérésie. Hein. On ne passe pas de l'église à l'église. Non. C'est l'église de Pierre, encore plus qu'avant. C'est le pouvoir des clés qui s'ouvre désormais de Pierre, et tout à fait lui-même de plus en plus. Mais cette fois-ci, vous voyez, il y a quelque chose d'encore plus transformant, encore plus catholique, encore plus libre dans la mission invisible des personnes divines, et beaucoup plus pensale. Le côté johannique a toujours été présent. Jean ne s'est jamais séparé de Pierre. Donc, il n'y en a pas un, jamais, aucun, et à aucun moment, et ce ne sera jamais le cas, qui passe devant l'autre. Jean n'est jamais passé devant Pierre. Il ne passera jamais devant. Hein, parce que ça existait, une théologie, on va dire un jour, il y aura une troisième église, enfin, pas une troisième église, c'est pas aussi gros, hein, c'est pas une troisième étape, quoi. Il y aura une étape.
Oh, certains disent, l'église de Jean.
Une église joannique, une église joannique, ce sera une église joannique, ce sera une église joannique, mais c'est comment il s'appelle, ça va me revenir, non, ça c'est, vous voyez, c'est un, il faut faire attention, hein, parce que c'est pas vrai, hein. C'est-à-dire, je dis non, et puis nous disons non aussi, parce que c'est évident, et puis Jésus dans l'évangile aussi, donc c'est pas, ça ne devient pas jaunique, et puis non, c'est toujours le corps mystique vivant de Jésus, avec son pouvoir avec le pouvoir d'acté qui ouvre le ciel et la terre au ciel, dans le mystère, c'est toujours le même, il n'y a aucune, vous voyez, il n'y a aucun saut comme ça, aucun saut comme c'est comme l'embryon, hein, c'est qu'il n'y a pas de, on ne perçoit pas un saut entre le génotype et le phénotype. Quoi. Non, il n'y a aucune. Une continuité parfaite. Il y a peut-être une exigence. Mais l'exigence, est-ce qu'elle vient de l'Église? Réponse, non. L'exigence, elle vient du péché. Il y a cycle aussi méchant-même. Donc la détermination nouvelle vient pas d'une discontinuité dans l'Église, qui du coup devient joannique. Non, il y a un péché, il y a ce qu'aussi, mais ce même, c'est quand même pas pareil. Et l'Église ne va pas changer à cause du péché, elle change à cause des missions invisibles des personnes divines dans notre âme. C'est quand même pas pareil. Hein. La tentation, il y a toujours cette petite tentation de... Il faut y faire extrêmement attention. On n'est pas touché par cette vision un peu fausse si on est dans la sainteté du roi, parce que le roi, lui, il vit le monde nouveau. Et le monde nouveau, c'est pas une église joannique, hein. C'est une église mariale, c'est une église eucharistique, c'est l'église qui est inscrite dans le livre de la vie, c'est l'église de la cause finale. Et ça a toujours été l'église de la cause finale. Parce que l'église catholique n'a jamais été l'église de Zeus, c'est-à-dire de la cause efficiente. Petit à petit, on avance et on devient de plus en plus. N'est pas une église théardienne. C'est l'église de la cause finale, c'est le baiser du véritable amour. Dès le départ, c'est l'église de la Pentecôte mariale. Et Marie a reçu l'Esprit Saint au pied de la croix. Et c'était il y a 2000 ans. Et là, s'inscrit en nous, dans notre raison, la mission à visiter les personnes divines dans notre âme. Mais de plus en plus ensemble, de plus en plus dans l'indivisibilité, pas d'un seul coup. D'un seul coup, le j'écoute soi-même est brisé dans son opacité invincible. Ça, d'accord. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Vous savez, il y a plein de tentations, il faut faire de plus en plus attention. Et puis, en plus, c'est facile. Alors, il ne faut pas se décourager, même si ça nous fatigue un peu. Et ça ne trouve plus le sommeil, c'est pas grave. Sans trop plus sommeiller alors que ça peut faire. Là, tu fais comme le père Montfort, tu te contentes de ton sommeil paradoxal, et puis c'est tout. Et tu iras beaucoup mieux qu'avant. C'est des problèmes périphériques. Voilà, donc nous, c'est ça. On fait la célèbre la messe du soir à cause de ça. Puisqu'il va y avoir la nuit. La messe du soir pour exprimer un désir nouveau dans la disparition, pas la disparition, mais la dislocation du côté invincible de l'opacité du méchaume. La couche méchaumique a une opacité véritablement invincible, mais on sait que dans la nuit, on pourra briser, pas anéantir, mais mettre une petite fissure dans l'opacité invincible du méchant. Pas besoin que ce soit des crevasses énormes. Une fissure suffit, parce qu'il faut juste l'espace pour une minuscule goutte de sang. Pour nos enfants. Et pour que la sainteté puisse être là. Et il faut bien sûr que ce ne soit pas visible aux yeux des affidés et des antichrists de la terre. Et donc, voilà, pour eux, c'est fini, c'est l'affaire réglée, tout est dans leur poche. Ils vont pouvoir récupérer toutes les énergies christiques de lumière et d'amour de Jésus de Nazareth en ayant évacué Jésus de Nazareth. Non, mais nous, on sait que c'est pas comme ça. Et là, il y a ce costume. Et donc, le grand saint, il est là. Il nous aide. On dit la messe le soir à cause de ça, pour pouvoir obtenir, supplier le bon Dieu, eucharistiquement, et Marie, et le Saint-Père, et puis tous les enfants avec nous, d'un nouveau désir d'augmentation de la présence de Dieu dans notre âme. Une plus grande liberté de la transformation directe de la toute-puissance de Dieu en direct dans notre âme demain. Et un plus grand étourdissement dans l'acquiescement, une plus grande libération, une plus grande disparition de notre ego possesseur, jouisseur, dominateur, et une plus grande disparition de notre esprit de contrôle et de destruction de l'œuvre surnaturelle de Dieu. L'œuvre surnaturelle de Dieu, c'est que la grâce sanctifiante augmente dans notre âme. Elle ne peut pas augmenter en dehors de la raison. Elle ne le peut pas. Elle le pouvait à l'époque de Saint-Hildegard. Elle le pouvait. Mais aujourd'hui, il y a le Meshom. C'est que c'est... Donc, il est strictement impossible qu'il y ait une augmentation de la contraction en 30 heures de l'horizon. Strictement impossible. Et c'est pas à cause des lois divines, c'est pas des lois spirituelles, c'est à cause du Sikosi Meshom. Hein? Et c'est à cause de ça que cela rend nécessaire l'oraison montrée, retrouvée, réactuée à tous les hommes de la Terre pendant 20 minutes. Voilà, et cette espèce de repos, et pouf, de la quatrième démarche qui va se réaliser. Et c'est normal, pourquoi? Parce que les enfants auront la nuit, en obéissant à Jésus, sainte de garde la donc au Saint-Père, sont levés la nuit pour qu'il y ait cette petite goutte de sang qui passe pour les enfants. Mouvement éternel d'amour et rien d'autre que ça dans le silence de l'innocence triomphante divine, universelle dans notre indivisibilité avec d'amour. Et ça, on a ce désir, on exprime ce désir d'une manière de plus en plus personnelle. Personnelle parce que nos enfants deviennent de plus en plus des personnes beaucoup plus repérable pour nous. On sait peut-être qu'on a des enfants, hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Puis de plus en plus, on va les connaître, de plus en plus, ils vont être, c'est un visage de plus en plus nouveau, de plus en plus resplendissant, admirable, génial pour nous, une complicité de plus en plus grande, et surtout du point de vue de la grâce aussi, bien sûr, hein, mais d'abord au point de vue humain. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que la matière du sacrement de mariage, c'est une matière humaine, pas une matière divine. Et donc, on rentre dans un désir nouveau, et demain, la nuit, la prière d'autorité, tout ça c'est un peu organique, hein, finalement. Et le lendemain, quand on fera oraison, on laissera le Saint-Esprit se répandre. Dans sa mission invisible, le Père enverra peut-être aussi cet amour resplendissant, lumineux, d'une spontanéité incréée, qui c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité en nous. Peut-être qu'on va se laisser suspendre, comme ça, plus de 10 minutes, alléluia, hein? Alléluia, alléluia, pour qu'il y ait une augmentation de la grâce sanctifiante dans notre âme. Et voilà, ça, il faut au moins exprimer ce désir-là, au minimum. Hein? Mais aussi que ça se répande en communion avec chacun de mes enfants. C'est vrai. Écoutez, si j'ai eu 7 enfants, il faut que ça se répande aussi, puisque mes enfants, hein, si j'ai eu 7, ma mère a eu 7 enfants, donc elle porte en elle le corps originel, le oui originel, incarné, des cellules ADN, hein, donc acide désoxyribonucléique, mais aussi le DNA de chacun de ses 7 enfants. Donc si elle ne fait pas sa prière tous les jours, et ma mère, elle le fait, hein, tous les jours. Elle a 7 enfants, tous les jours, ma mère. À genoux, les bras en croix, une demi-heure, pour chacun de ses enfants, depuis qu'elle nous a enfantés, tous les jours, à genoux, les bras en croix, une demi-heure pour chaque enfant. Pourquoi? Parce que c'est une maman catholique. Elle le désire, on est. Et c'est une maman toute simple. Elle a ses défauts. Et quand même, les enfants vénèrent leur maman. Hein. Si vous avez des enfants, bah, soyez leur maman. Si vous avez des... Il y a des gens qui communient, ils ne se mettent même pas à genoux. Ça fait bizarre quand même. Ma mère est à genoux, elle prend croix. Ah, mon père, quand il communiait, il était à genoux. Et pourtant, il n'était pas intégriste. Mais alors, le contraire de l'intégriste. Hein. Mais enfin, quand même, mon grand-père ne communiait jamais, 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 jamais de toute sa vie. Sans larmes, jamais. Jamais mon grand-père n'a commis sans larmes. Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que ça, c'était des personnes, vous voyez, qui appartenaient à l'église de Pierre et de Marie et de Jean, bref. C'est des gens qui appartenaient à la grâce sanctifiante. Voilà. Donc ils savaient que c'était un corps mystique vivant. Ils savaient que c'est Dieu qui faisait tout. Ils savaient tout ça. Alors on désire, et on a ce désir d'être la maman, le frère, la sœur, la mère, la père, la maman, le frère et la sœur. C'est du verbe de Dieu. Du verbe de Dieu. Et puis du coup, le calice d'où déborde les délices de l'Esprit Saint de plus en plus. Parce que ce calice fait boire tout le diaphane angélique. Et l'au-delà du diaphane céleste est suspendu pendant une demi-heure où il n'y a que ça qui se produit sans aucun autre mouvement, aucun autre. C'est ça que c'est la seule chose, j'ai bien dit, la seule chose sur laquelle Dieu nous attend. Par rapport au cinquième saut de l'Apocalypse, parce que il y a eu Chikoussi, hein, d'accord, vous me suivez maintenant? Fin du cours de CM1.
Merci.
Et surtout, n'essayons pas de voir autre chose. C'est notre intention. Vraiment, franchement, nous n'avons aucun désir de rajouter quoi que ce soit à ça.